Les séminaires du Collège de France.
Je propose maintenant de passer la parole à la deuxième intervenante. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Marie Lecomte-Tilouine, qui est directrice de recherche au CNRS, qui est membre du laboratoire d'anthropologie sociale, donc dans une certaine mesure, elle est à la maison. Et en fait, Marie Lecomte, donc dès les années 1980, a étudié la région centrale de la chaîne himalayenne. Et là, même Pierluigi se défendait d'anthropologie de terrain. Là, évidemment, nous entrons dans l'anthropologie de terrain, avec un accent qui est porté sur la relation entre les formes symboliques et leur instrumentalisation politique. On est vraiment dans beaucoup de travaux de Marie Lecomte, nous sommes à la charnière entre ces éléments. Alors, en 1993, elle a publié un ouvrage joliment intitulé « Les dieux du pouvoir, les Magars et l'hindouisme au Népal central ». C'était la thèse de doctorat, j'imagine ?
Oui.
Oui, voilà. qui est paru donc aux éditions du CNRS. Les Magars étant une ethnie tibéto-birmane de l'ouest du Népal. Et donc la relation avec l'intégration en contexte hindou est évidemment au centre de cette étude des rituels, des fêtes, des différents rituels du cycle de la vie. Et après ce travail inaugural qui est toute thèse de doctorat, Marie Lecomte a beaucoup travaillé dans ce contexte népalais et himalayen, en lançant notamment des programmes de recherche, que ce soit dans le cadre de l'ANR ou d'actions concertées incitatives, avec toute une série de publications dont je ne reprends que quelques-unes. Un collectif en anglais sur les bards et les médiums, histoire, culture et politique dans les royaumes de l'Himalaya central. Une monographie intitulée, toujours en anglais, Royauté hindoue, Revival ethnique et rébellion maoïste au Népal. Donc, je vous le disais, toujours ce lien entre la dimension symbolique, rituelle et politique. Et je soulignerai tout particulièrement, parce qu'évidemment, ça a été pour moi le point d'entrée dans le travail de mon invité, l'ouvrage publié en 2020 ou 2021, j'ai vu les deux dates, « Sacrifice et violence, réflexion autour d'une ethnographie au Népal » qui vient d'être publié en anglais à Cambridge. Et c'est évidemment cette question du sacrifice et de la violence qui m'intéresse tout particulièrement, puisque c'est une question qui reste totalement ouverte du côté de l'étude du sacrifice grec. Et donc, de ce point de vue-là, la comparaison peut être une expérience particulièrement intéressante. Et je citerai enfin, avant de lui donner la parole, un ouvrage collectif qui a été publié en 2024, Rencontre avec l'invisible, toujours en anglais, Revisiting Spirit Possession in the Himalayas. Et donc j'ai vu avec plaisir que vous utilisiez la notion de présentification de l'invisible, qui nous est particulièrement chère du côté hellénique, évidemment, puisque c'était une des manières dont Jean-Pierre Vernant avait parlé il y a bien des années de ces questions du côté grec. Voilà. Merci encore d'avoir accepté mon invitation et je vous laisse la parole.
Donc, merci à vous de m'avoir invité et à vous tous de venir m'écouter. Mon exposé sera moins formel, je ne l'ai pas écrit parce que d'une certaine façon je travaille sur ce sujet donc depuis 40 ans. Il se trouve que mon premier vrai terrain au Népal, j'y avais été pour apprendre la langue avant ça, mais mon terrain de thèse a commencé en 86 et dès la première année donc j'ai pu observer ces grands rites sacrificiels royaux. qui est le sacrifice du buffle. Je le mets au singulier, mais comme vous voyez déjà sur l'image, leur nombre importe peu. Le buffle peut être démultiplié jusqu'à des chiffres assez astronomiques, puisque le Népal passe en fait pour avoir le record du monde dans ce domaine, dans le sanctuaire de Garimaé, où jusqu'à presque 500 000 buffles ont pu être offerts. Bon, c'est une fête qui dure un mois, hein, et où beaucoup d'Indiens venaient avec leurs buffles. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails et toutes les formes de sacrifice au Népal, puisqu'en fait, ce que Sylvain Lévy disait de l'Inde védique s'applique assez bien au cas du Népal contemporain. Il disait que le sacrifice était à l'origine de toute chose et que toute chose avait son semblant d'existence. On peut dire qu'au Népal, on trouve des formes sacrificielles, des logiques sacrificielles et surtout des pratiques sacrificielles à énormément d'échelles. Et donc je vais me concentrer sur une forme qui me semblait particulièrement intéressante, bon, dans l'absolu, mais également pour votre intitulé de séminaire, où il s'agit donc de s'intéresser aux relations entre l'organisation sociale et politique et les formes sacrificielles, puisque là, on peut vraiment étudier ce qu'un sacrifice fait sur l'ensemble d'une société, puisque on a, bon, ce que Mauss appellerait un fait social total, une cérémonie qui implique l'ensemble de la société, de ce qui était le royaume du Népal jusqu'en 2008 et qui maintenant, bien sûr, va prendre très probablement des formes différentes, puisque on va dire que son centre royal n'étant plus là, même si le roi a toujours son titre, mais il n'est plus en fonction. Il continue à exercer finalement ce rôle de patron de la grande célébration de la déesse, qu'est ce sacrifice du buffle. Donc, je me limite à cette configuration rituelle qui est déjà d'une richesse exceptionnelle, mais qui n'épuise absolument pas toutes les formes de sacrifice que l'on trouve au Népal, qui est un pays, donc, même s'il est très éloigné de la Grèce ancienne, il partage comme cadre d'enquête le fait de l'importance du polythéisme. Bon, côté hindou, il est beaucoup plus foisonnant, hein, puisque classiquement, il y a 330 millions de dieux, mais en chaque région, en fait, la cohorte vénérée est beaucoup plus réduite, et finalement, on arrive pratiquement à un effectif un peu comparable à ce qu'on pourrait trouver en Grèce ancienne. Et puis, on trouve aussi la centralité de l'institution royale et également l'importance de la guerre. Bien sûr, va être célébré pendant tout ce rite qui a une relation très très forte avec l'activité guerrière. Et qui dit relation avec la royauté, en fait, dans un contexte hindou, dit relation avec la guerre, puisque la définition d'ailleurs constitutionnelle au Népal de ce qu'est le roi, c'est la première ligne, c'est le roi est un kshatriya. Kshatriya, donc c'est la classe ou caste des guerriers, et par définition, donc tous les rois du Népal sont des guerriers. Alors excusez-moi, je vais faire une toute petite parenthèse pour vous indiquer, alors pour pointer, j'appuie là-dessus, je crois, en haut. Ok, je vais en fait parler, donc vous voyez, nous sommes dans une languette en fait qui suit la chaîne himalayenne, avec donc en fait une altitude qui va s'étager de à peu près le niveau de la mer jusqu'à 8000 mètres, mais une histoire très très différente selon les régions, puisqu'en fait toute cette zone de plaine qui est actuellement très peuplée, la moitié de la population y est descendue, ne l'était pas du tout avant 1950, ou très peu, parce qu'il sévissait la malaria. Et en fait les royaumes dont je vais vous parler sont situés dans ce qui est souvent appelé le moyen pays, c'est ce qu'on appelle aussi le pays des collines, mais il faut penser que les collines du Népal sont plus hautes que le Mont Blanc pour beaucoup d'entre elles, donc c'est un pays montagneux, mais ce n'est pas encore la haute montagne où en fait il y a des tout petits groupes d'obédience bouddhiste très 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 éparpillés qui résident, et puis surtout plus personne au-delà de 4000 mètres ou 4500 mètres. J'ai travaillé et je vais vous parler d'un ensemble de royaumes qu'on peut à peu près géolocaliser comme ça, qui s'appelle les 24 royaumes, et d'un autre ensemble situé dans cette partie plus occidentale qui s'appelle les 22 royaumes ou Beisi, avec une différence entre les deux, du fait que ces royaumes, les 22 royaumes, sont en fait des poussières d'un empire dont les deux capitales, puisque dans l'Himalaya il y a presque toujours deux capitales royales, une d'hiver et une d'été, selon les saisons. Et donc, on va voir qu'il va y avoir des particularités très intéressantes dans cette région. D'où l'intérêt de contraster ces deux ensembles de royaumes et de ne pas parler des royaumes himalayens ou népalais dans leur ensemble. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut encore parler de ces royaumes aujourd'hui ? Eh bien, c'est qu'ils ont été conquis militairement à la fin du XVIIIe siècle, donc il y a un certain temps, mais il y a une tradition orale et une organisation rituelle qui perdure, qui fait que, en particulier, le rite sacrificiel dont je parle va toujours faire intervenir les descendants des anciens rois locaux, des anciens chapelains locaux, et qu'il y a vraiment un caractère très conservateur de ce rituel, puisque en certains lieux, on voit même co-officier deux rois qui, pour certains, ont cessé de régner plutôt au XVIe siècle. Donc, cette anachronisme, ce côté un peu congelé du Népal a été remarqué par les premiers observateurs et surtout textualistes comme toujours Sylvain Lévy, hein, puisqu'il a eu le privilège lui de séjourner au Népal au début du XXe siècle, il disait que le Népal, c'est l'Inde qui se fait, donc cette Inde, c'est une sorte de conservatoire. Bien sûr, personne ne reste congelé, il y a des façons d'évoluer, mais il faut quand même avoir en tête que c'est un pays dont le souverain a décidé de fermer les frontières à toute ingérence étrangère, donc en 1769, et qu'il n'a été réouvert qu'en 1951. C'est aussi un pays qui n'a jamais été colonisé, ni par les Moghols, ni par les Britanniques, et donc ça en fait une région très très particulière qui n'a pas connu les mêmes influences linguistiques et religieuses que l'Inde notamment. Et par ailleurs, dans en tout cas ce qui est la mythologie des clans de haut statut qui résident au Népal, beaucoup disent qu'ils auraient fui l'arrivée des Moghols ou certaines attaques de souverains avec leur divinité hindoue et leurs textes vers le Népal, ce qui pourrait expliquer qu'on a un milieu un peu plus conservateur également, des gens pas prêts forcément à se convertir ou à négocier avec les envahisseurs. Et de fait, c'est bien au Népal qu'on a trouvé presque tous les manuscrits les plus célèbres, l'Arthashastra, etc., puisqu'il y a probablement effectivement eu ce phénomène, et puis aussi des conditions climatiques qui font que les feuilles de palme et les manuscrits en général se conservent mieux en montagne que dans l'Inde où tout est chaud et humide, et pas propice à la conservation de ces supports fragiles. Alors, Bien sûr, malgré cette documentation et malgré l'existence de quelques chroniques qu'on trouve pratiquement pas en Inde, sauf dans d'autres régions himalayennes comme le Cachemire, le Népal a très peu, on dispose de très peu de sources historiques à part pour la vallée de Katmandou. Et donc dans les royaumes dont je parle, il n'y a pratiquement pas de texte. Pour la période de l'Empire, nous avons trouvé, sur, justement lors d'un des programmes que j'ai pu diriger, en tout 200 inscriptions sur plaque de cuivre ou pierre, et il s'agit toujours de donations à des astrologues. Donc c'est un matériel très limité qui ne va pas du tout nous raconter quelles étaient les pratiques religieuses, etc., même si ça nous donne évidemment beaucoup d'informations ça et là. Alors ça s'explique en partie du fait qu'on ne garde pas les documents d'une conquête à l'autre. Au Népal, on sait qu'en fait, toutes les donations étaient reconfirmées par le nouveau roi qui venait de s'emparer d'un territoire. Et donc, on pense que les gens se sont tout simplement débarrassés de la plupart des textes antérieurs. Ce qui fait que, par exemple, si on veut travailler sur l'histoire du rite dont je vais vous parler, on n'a pratiquement rien. Et en fait, la source la plus ancienne que j'ai pu trouver, eh bien, ce sont ces bardes de l'Ouest du Népal qui ont un répertoire entièrement oral et qui prend fin, on va dire, au 16e, 17e siècle. Ce sont des gens qui n'ont pas du tout composé justement de nouvelles épopées sur la grande campagne militaire d'unification qui a eu lieu au cours du 18e siècle, mais qui raconte des histoires bien antérieures et beaucoup qui racontent en fait la période de l'Empire, donc début 12e siècle, fin 14e siècle, et donc qui mentionne l'un de ces rois, Malaybum, qui aurait donc offert un bouc lors de la nuit noire, qui est vraiment le nom du moment le plus fort du rituel dont je vais vous parler, et donc là qui atteste bien, même si c'est oral, de l'antiquité de cette pratique dans cette région. Alors, la royauté est un composant absolument central au Népal avec le sacrifice, puisque, comme je vous l'avais dit, elle a perduré jusqu'en 2008 et que le dernier souverain non seulement est encore présent, mais que notamment le tout dernier mouvement violent qui est celui de la Gen Z de cet automne, beaucoup de parmi eux réclament en fait le retour du fils du souverain, prince héritier, pour prendre de nouveau les rênes du pouvoir. Donc c'est pas une histoire totalement finie et enterrée. Il y a peut-être des possibilités de résurgence, peut-être d'une manière différente, un roi constitutionnel. Bon. Toujours est-il que les rois du Népal ont connu des hauts et des bas. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans tous les détails de l'histoire, fondamentalement, ils étaient couramment présentés comme des avatars de Vishnu. Et de fait, les rois s'assoient bien sur un trône qui est surmonté par ce serpent à plusieurs têtes, qui est le Sheshnag, qui est le serpent qui protège le dieu Vishnu. Vishnu qui est le protecteur, qui donc s'assure que les choses soit prospère et se perpétue. Cela dit, donc, on le voit également tenir son sabre qui, malgré maintenant les apports très probablement plus contemporains, hein, comme cette couronne qu'on appelle le shripetch et le sceptre dont il n'est absolument pas question dans les textes anciens, le sabre qui lui est presque, enfin, est utilisé dans les textes anciens comme une métonymie de la royauté, est toujours présent, et le souverain le tient entre ses deux jambes. Et les souverains du Népal, en fait, jusqu'en 2008, quand ils ne pouvaient pas se rendre en un lieu, ils faisaient conduire leur sabre pour se représenter. Alors, on va voir à quel point ce lien entre le pouvoir guerrier, le pouvoir de mort contenu par l'image du sabre et le sacrifice sanglant est important lors du rituel. Mais le roi est une personnalité excessivement complexe dans l'hindouisme et dans la forme qui est pratiquée au Népal, hein, qui est Shakta. Donc c'est un culte vraiment à la puissance. 98% des hindous au Népal vont se déclarer être du courant Shakta, et les hindous forment à peu près actuellement 80% de la population, donc c'est une très forte majorité, parce qu'il y a souvent l'idée que le Népal est bouddhiste, puisque beaucoup de touristes vont en fait directement en altitude dans les monastères tenus par des populations en fait qui sont numériquement très très faibles et qui pratiquent effectivement le bouddhisme. Mais voilà, il faut retenir qu'il y a peut-être 8% de gens qui se déclarent bouddhistes, mais qui en pratiquent également l'hindouisme pour un très grand nombre d'entre eux. Et puis qu'il y a 5% de musulmans, dont l'essentiel en fait vit dans cette plaine qui était très peu habitée avant 1950. Et puis qu'il y a 5% de tribaux qui maintenant ont décidé qu'ils n'étaient plus hindous et qu'ils vénéraient la religion de la nature, mais ça ne les empêche pas de pratiquer en fait à peu près les mêmes cultes que les autres, sauf pour certains qui veulent justement s'opposer. Et bon, j'aurai pas le temps de beaucoup rentrer dans cette dimension-là, mais je la mentionnerai tout de même, parce que voilà, moi ce qui m'importe, c'est de vous montrer que la personne du roi est composite et très complexe et très changeante, hein, puisque son intronisation va consister à le faire asseoir sur des peaux d'animaux sauvages, après à oindre son corps de 7 venant de lieux différents de son royaume avec de l'eau, et surtout par les 4 groupes de castes apportant chacun dans un pot de matières différentes des substances différentes. Et donc il va vraiment être créé comme une personne composite fabriquée par l'ensemble de ses sujets et condensant en son corps en fait la totalité de son royaume. Royaume qui est vraiment considéré d'abord comme son épouse, hein. Il est marié à la terre qui est le territoire de son royaume, comme le tout premier roi Prithvi, hein, qui est l'époux de la terre. Et les rois du Népal ont beaucoup utilisé cette image, mais c'est un peu plus qu'une image, dans le sens que la propriété n'existe pas vraiment au Népal. De plus en plus, elle a tendance à s'imposer, mais en fait, on était tenancier d'un morceau de terre du roi. Et on pouvait payer ou ne pas payer, être exempté d'impôts, mais voilà, l'adage « la terre est au roi » ouvre par exemple l'ébauche de code qui a été écrit par un ancêtre de ce roi Mahendra au XVIIe siècle. Et ce roi, dans les chroniques, où on en parle beaucoup, puisqu'en fait les chroniques se contentent essentiellement de parler des générations de rois qui se sont succédés et de ce qu'ils ont fait, eh bien on les voit dès la naissance être décrits comme des êtres qui vont recevoir des parts d'héritage, qui s'appelle Amsa, qui veut dire à la fois part, si on repartage un repas, mais aussi ce dont on hérite, qui vont être des qualités des différents dieux. Donc il va recevoir par exemple la prospérité de Kubera, le courage de tel autre dieu, la force de... Bon, voilà. Et ces qualités dont il hérite, il va les mettre plus ou moins en avant selon les circonstances. Et on peut voir par exemple dans la chronique, le récit du roi de la fin du 19e, Ran Badosha, qui a été désespéré quand sa jeune épouse, dont il était follement amoureux, est tombée malade, puis est morte, se transformait en forme terrible de Shiva. Donc d'abord en forme de Shiva quand il a commencé à s'en prendre au dieu qu'il tenait pour responsable de la maladie de son épouse, et puis après en forme terrible de Shiva pour les punir, faire saccager leur temple, et lui-même ne se déplaçait plus que sur les épaules d'un homme, comme le dieu qui avait pris en fait le dessus sur sa personne et qui l'incarnait d'une certaine façon. Mais son pouvoir, sa shakti, qui est quelque chose dont il ne peut absolument pas se passer, comme tout homme politique encore aujourd'hui, provient avant tout de la déesse qui est la source de la shakti, qui est ce pouvoir d'action, de parole, mais aussi ce pouvoir, on va dire, de vie, hein, puisque quand la déesse est honorée, eh bien, la végétation croît, etc. C'est une puissance très diffuse. Et donc, ils vont... avoir en commun, bien sûr, cette relation de dépendance, mais également, finalement, une nature très proche, puisque la déesse elle-même, apparemment, n'existait pas à l'origine, et on a l'histoire de sa création par les dieux, qui, faisant face à un démon beaucoup plus puissant que chacun d'eux, en fait, vont rassembler leurs énergies, d'où va sortir cette forme féminine et la doter chacun d'une arme ou d'un ornement qui lui est spécifique et en fait fabriquer de toutes pièces cet être composite qui est la Adi Shakti, la puissance primordiale, qui va garder un peu comme le roi, même beaucoup plus que le roi, cette habilité à changer de forme selon les circonstances et surtout son degré de satisfaction ou de colère, et avoir aussi cette capacité à émettre d'autres formes d'elle-même, c'est-à-dire à se démultiplier lors du combat, notamment. Donc, bon, là, je vous en ai montré une version un petit peu terrifiante, dans le sens que bon, elle est maculée de sang. Je ne vous montrerai pas de sacrifice en train de se faire, parce que c'est vraiment assez impressionnant, ça ne rajoute pas forcément beaucoup de choses, l'impression est peut-être suffisante par ces giclées qu'on voit sur cette déesse Kali. Donc, je vais rentrer quand même dans la description du rituel, sinon ça va être trop court. Donc, la grande cérémonie sacrificielle dont je vous parle s'appelle au Népal le Dasain, qui veut dire les 10 jours, mais les gens l'appellent aussi également le culte à Durga, qui est la forme guerrière de la déesse. Et à ce moment précis de l'année, on est en fait à la fin d'une période qui est la mousson, qui est censée durer 4 mois, même si récemment elle s'est mise à durer des temps un peu étranges avec le dérèglement climatique. Eh bien, ce rite et le sacrifice du buffle en particulier, le moment de la décapitation, vont mettre un terme à cette période qui est une saison à nos yeux, qui est la mousson, mais qui est également considérée par les hindous et les népalais en particulier comme une période de chaos, mais vraiment très concrètement. Par exemple, si vous blessez quelqu'un pendant la mousson, alors il y a quand même la coutume du prix du sang, et au lieu de vous demander le petit tarif habituel, il va vous dire: on est en mousson, ça va s'infecter, donc je double. Et voilà, donc, parce que c'est un moment plus dangereux, les dieux partent dans les abysses visiter des démons, et donc les humains sont livrés à eux-mêmes. Alors, dans ce contexte qui est, où il y a un manque de protection pour les humains, il y a une quinzaine dédiée aux esprits des morts qui va être suivie par, en fait, alors 10 jours consacrés à Durga et puis, en fait, jusqu'à la lune suivante des rites vont prolonger la cérémonie sacrificielle. Et ça va être donc déterminé chaque année par des astrologues qui, bon, maintenant de plus en plus, en fait, œuvrent à Bénarès et envoient un almanach tout imprimé. Mais traditionnellement, même encore maintenant dans l'ouest du Népal, les astrologues locaux calculent le calendrier et ils peuvent ne pas être d'accord avec les dates. Donc on peut voir des choses assez étonnantes en termes de dates. Et de toute façon, on ne peut donc pas fixer de date puisque ça prend en considération la Lune. Donc ça change chaque année. Et donc en tout cas, le premier jour de la fête, eh bien, ça va consister en l'établissement de la déesse Durga, donc le Durga Stapana, qui va en fait être établi en chaque demeure, que ce soit une simple maison de villageois, un temple ou bien un palais royal, sous forme d'une cruche qu'on remplit d'eau pure où on peut mettre des fleurs, là, comme dans cette première photo, et d'une petite zone, alors quelquefois qui est, et d'ailleurs dans les manuels, il est recommandé de semer ces graines d'orge sur la cruche pour mieux figurer Durga, mais on peut le mettre aussi à côté. Alors, je ne vais pas beaucoup gloser, mais donc ça, c'est une photo qui est tirée d'Internet, j'ai oublié de mettre la source, excusez-moi, mais bon, de toute façon, elle s'affiche en gros, mais qui est l'hôtel dans le palais royal, et je voulais vous montrer pour vous expliquer qu'en fait, il n'y avait absolument pas de différence dans l'aspect de l'hôtel à Durga royal et ceux des villageois. Sauf que là, évidemment, il y a une quantité d'orge semée qui est supérieure parce qu'il va distribuer ses germes à ceux qui viendront le trouver. Auprès de la cruche, dans les anciennes forteresses et dans les palais royaux de ces royaumes des 24 que je vous ai montré sur la carte, on installe les sabres, qui sont appelés des sabres royaux, qui sont appelés généralement le sabre, c'est Karka, et ça va être suivi de Dewata, d'où ma traduction de Dieu sabre, puisque c'est vraiment un compend, je ne sais pas comment dire en français, désolé. Donc ces dieux sabres vont recevoir donc des poudres, de l'encens, toutes les formes d'offrandes qui vont également être adressées à Durga pendant les premiers jours du rituel, où en fait il y a une sorte de gestation, enfin plus exactement de germination. Les choses sont en train de naître dans l'ombre de ces foyers, mais dans les centres royaux, les grands temples, il y a des officiants qui vont jeûner auprès des sabres et de la cruche pendant toute cette période d'introduction, comme dirait Moss dans son schéma. Et le rituel va en fait consister dans ces centres-là à lire la geste de la déesse qu'on appelle le Chandipat, qui est un texte qui, sous la forme qu'on lui connaît inséré dans le Markandeya Purana, date du 5e siècle, mais il faut savoir qu'en Inde, la tradition orale en fait est beaucoup plus prisée que la forme écrite. Connaître même encore aujourd'hui par cœur ce texte, Chandipak, pouvoir le réciter sans le lire, est quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que d'en faire la lecture. Donc encore, s'il y a un texte que les brahmanes népalais apprennent relativement souvent par cœur, c'est toujours donc cette geste de la déesse qui a été traduit en français par Jean Varenne sous le titre Célébration de la grande déesse aux belles lettres. Et donc, évidemment, ce texte fournit en partie le scénario qui va se répéter dans la réalité, mais juste en partie, puisqu'il contient des épisodes qui ne sont absolument pas mis en scène, mais il va contenir ce fameux épisode où les dieux vont créer la déesse, la doter de leurs armes pour qu'elle aille combattre le démon buffle. Mais il y a des éléments dans la cérémonie qu'on trouve à peu près à l'identique dans tous ces différents 24 royaumes qui n'apparaissent absolument pas dans les textes et qui visiblement ne sont pas inspirés, et peut-être que l'un a été plaqué sur l'autre, enfin bon, ça c'est une question ouverte. Toujours est-il qu'après 6 jours de récitation du texte dans les temples et palais, une récitation qui est assez intéressante, puisque bien souvent ça va être récité d'abord en sanskrit avec ce que les brahmanes appellent atsar, donc des gestes qui vont scander la lecture, qui est très prosodier, bon, là c'est pas mon domaine, enfin donc voilà, et puis après réciter sur un ton normal, on va dire, habituel, ordinaire, en népali, donc dans la langue que tous comprennent. Donc il y a cette alternance entre l'effet de la récitation qui en fait est celle qui s'adresse aux dieux, le sanskrit étant le langage parfait des dieux, et puis la compréhension, un petit peu comme si on avait la messe en latin, pas latin, chaque vers comme ça. Donc cette lecture se poursuit jusqu'au sixième soir où certains officiants vont sortir du sanctum et en fait se rendre aux frontières du royaume, généralement à une rivière, puisque ce sont les rivières dans ce pays de montagne qui marquent les frontières, tandis que les éminences sont les places fortes. Et à cette rivière, en fait, ils vont souvent, ils sont 3-4, s'installer sous un arbre particulier qui s'appelle en népali le bel, c'est l'aigle marmelos. Je ne sais pas pourquoi cet arbre-là est si important pour la forme végétale de la déesse, sauf que je viens de faire tomber l'oreillette. Bon, on va donc le vénérer et puis au matin cueillir 3 de ses fruits, les mettre dans, vous voyez, ce tissu rouge avec un tissu suspendu, c'est un palanquin, c'est là-dedans qu'on transporte en particulier les mariés, surtout quand il y a un châle rouge, ça signifie qu'il y a une femme qui va être pour le mariage, la jeune épouse ne doit pas toucher le sol, elle est conduite portée. Alors bon, il y a beaucoup de choses à dire sur le fait de ne pas toucher le sol, hein, puisque c'est une caractéristique des dieux, c'est même comme ça qu'on peut les reconnaître quand ils veulent se cacher parmi les humains. Bon, en tout cas, toujours est-il que ces végétaux vont être transportés comme une épouse, et en fait, bon, il y a plusieurs ingrédients qui vont le constituer en plus de cet arbre. Et au-delà de ça, dans beaucoup de localités, en fait, les porteurs de la forme végétale de la déesse vont pouvoir s'emparer de tout ce qu'ils trouvent, des concombres, etc. À l'époque, cette époque-là de l'année qui est octobre, c'est beaucoup les concombres. Et donc les prendre comme si finalement tout ce territoire appartenait au dieu, au roi, puisque elle va bien sûr monter jusqu'au palais où la forme royale va venir la chercher. Alors parfois quand il y a un descendant en personne à la place, l'espèce de champ de Mars qui tient lieu de limite, de porte de la cité, il n'y a pas du tout de rempart ni quoi que ce soit, mais il faut penser à une éminence avec un replat où le roi vient chercher la déesse sauvage des confins et va la conduire jusqu'au palais pour son introduction, où elle va rester en fait exactement comme une jeune mariée. 3 jours après, elle retourne vivre chez ses parents, d'où alors les mariages très 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 jeune, en fait, les femmes ne résidaient pas dans leur belle famille. Elles venaient 3 jours et puis parfois ne revenaient que très longtemps plus tard. Mais à partir du moment où la déesse est présente dans le palais, alors il va y avoir une très forte intensification. En fait, le lendemain ou le surlendemain, selon les localités, des cortèges familiaux, donc pas vraiment clanique, hein, c'est plutôt des lignages un peu plus petits, vont en fait converger vers le palais en ouvrant la marche avec des étendards et puis suit celui qui tire le buffle, il ne se porte pas, et puis les femmes portant des offrandes. Alors, ça fait évidemment penser à un rassemblement de tous les guerriers de l'armée d'un roi, tel que décrit dans l'épopée locale, puisqu'on voit les clans qui convergent avec leurs armes et leurs étendards. Sauf que là, il y a des femmes qui sont présentes, même si elles ne tiennent ni les étendards, ni les victimes. Et donc, la convergence se fait au palais, donc là le petit bâtiment très modeste que vous voyez, c'est un palais royal, mais il y a autour une arène sacrificielle où se presse la population, en fait pour, là vous les voyez, jeter donc des pétales de fleurs sur les dieux sabres qui sont sortis, deux des dieux sabres parmi les 5 que contient le palais sont sortis à tour de rôle chaque année. Et puis donc il y a un élément particulier qui est un roi magar qui ouvre la procession dont je vais parler un petit peu après. Donc je vois que le temps passe vite. Donc va alors avoir lieu, et je ne vais pas vous les montrer en gros plan, les sacrifices de ces animaux, tous attachés donc au pilier sacrificiel royal, les uns après les autres. Et donc le vocabulaire est celui du don, hein, c'est le bolidon, c'est Dan, c'est vraiment le mot pour don, avec ce terme de boli qui est en fait, on pourrait le traduire de différentes façons, mais quand on demande aux Népalais aujourd'hui, c'est peut-être une étymologie populaire, ils disent que c'est un don de force et qu'il faut avoir une force particulière, celle du cœur, pour pouvoir décapiter un buffle, puisque là, ils ne sont pas préalablement égorgés, ce qui facilite la tâche. C'est vraiment un acte sportif. Alors, je voulais parler un peu de la place des femmes dans ce dispositif. Elles ne sont pas absentes, elles ne sont pas exclues, comme Vernon le disait, dans la cité où elles avaient d'autres cultes dérangeants, etc. Elles sont spectatrices, mais ce sont souvent des spectatrices apeurées, donc là on les voit se mettre un peu à l'abri, en hauteur, et surtout critiques. On les entend même dans les années 80, alors où c'était pas encore la libéralisation politique, on les entendait critiquer, dire que les animaux étaient trop petits, qu'ils savaient, enfin bon, il y a beaucoup de critiques formulées. Mais alors depuis cette libéralisation politique, les femmes, et bon, moi je travaille spécialement là-dessus, en ce moment j'ai pas encore vraiment publié, mais sur cette femmes possédées par la déesse, donc qui vont qui se rendent au moment des grandes fêtes pour parler avec la voix de la déesse et dire qu'elles ne veulent plus de sacrifices sanglants. Donc les femmes ont ce rôle qui apporte un contrepoint dans le dispositif sacrificiel holiste et qui, évidemment, n'apparaît absolument pas dans les textes, puisque faut être là pour les entendre parler, puis en fait, faut même se mettre avec les femmes pour bien les entendre, parce que sinon, dès qu'on est un étranger, en général, on est invité à se tenir avec les hommes au premier rang, et tout cela n'est plus présent. Mais en fait, au tout premier rang, on trouve aussi les intouchables, puisque les intouchables sont les musiciens et qu'ils ont un rapport très complexe avec les rois. ce sont leurs hommes fidèles, ceux sur lesquels ils peuvent compter et de la part desquels ils n'ont aucune appréhension, puisque étant donné qu'ils sont complètement hors jeu politiquement parlant, ils ne craignent rien d'eux. Et donc, en dessous du palais royal, en fait, on s'attendrait à voir des maisons de kshatriyas, de guerriers, etc. Mais non, ce sont des intouchables qui entourent le palais comme si c'était vraiment leur garde rapprochée. Et donc, ce sont les forgerons, ce sont les musiciens. Et ils sont très importants puisque c'est eux qui vont redonner vie à ces armes et aussi qui ont ce savoir sur. Qui, en tout cas, historiquement, avaient un savoir très, très important, puisqu'ils savaient lire la puissance, la capacité d'un sabre à bien trancher ou pas. Mais donc ces intouchables ont aussi un rôle très ambigu, puisque la grosse différence avec les sacrifices, par exemple en Inde ancienne, c'est que le buffle est un animal fondamentalement impur. Donc aucun deux fois né ne peut consommer de buffle sans perdre immédiatement son statut. Donc là, il ne s'agit pas de tuer pour manger, mais vraiment de tuer pour faire manger. Donc faire manger, bien sûr, les seuls qui peuvent manger cette viande impure, qui sont les intouchables. Et donc, on a pu, justement, avec cette contrainte très très forte qui a en fait perduré, même si les petits royaumes avaient disparu, finalement, la royauté au Népal suffisait à perpétuer le même type de contrainte. Et donc, depuis une quinzaine d'années, on voit donc ces gens de basse extraction, ces intouchables, à proposer, en tout cas envisager de boycotter ce qu'ils appellent de manger la charogne, alors que ce sont des buffles en fait fraîchement exécutés, mais dont ils soulignent eux aussi le caractère infâme par d'autres terminologies. Et donc en fait, il n'y a pas de communion au sens propre quand on exécute tous ces animaux, mais la communion va plutôt être un signe de participation à ce rituel qui va en fait être pyramidal, puisque par exemple dans les années 80, les prêtres écoutaient la radio pour entendre à quel moment le roi avait reçu sa marque, puis après tous se distribuer les marques les uns entre les autres par ordre de seigneurité du plus haut vers le plus bas et jusqu'aux plus modestes, donc aux enfants de 3-4 ans, aux intouchables qui le recevaient dans leurs mains pour se le mettre, mais qui faisaient bien partie du même ensemble sacrificiel. Et c'est un rite donc qui ne s'arrête pas d'une certaine façon. C'est vraiment une introduction, un sacrifice d'une ampleur beaucoup plus grande qu'est la guerre, puisque après la clôture des rituels, la fermeture des temples et la distribution des marques, eh bien, les hommes font des danses avec les armes sacrificielles, avec les sabres, qu'ils appellent en fait un départ en guerre, et ils prétendent que au temps des rois anciens, ils partaient, ça ouvrait la saison de la guerre. Alors, une saison qu'on peut comprendre, puisque c'est aussi la saison des treks et des alpinistes, hein, puisque la mousson s'arrête effectivement un peu de temps après, et donc on peut se déplacer en montagne beaucoup plus facilement. Je crois que j'ai pratiquement épuisé mon temps, mais donc je ne vais pas développer, mais en 4-5 minutes, je vais quand même vous dire un petit peu ce que je vous avais dit au tout départ, c'est qu'en fait, dans le modèle que je vous ai présenté là, c'est vraiment celui qu'on retrouve partout dans les 24 royaumes, où on voit une très forte centralisation du pouvoir dans chaque ancien petit royaume, avec justement une matérialisation unique qui est le pilier sacrificiel du roi, où on va attendre son tour, en fait, selon sa position, son éminence par rapport aux autres. Mais dès qu'on pénètre dans la région ex-Empire Mala, dans les 22 royaumes, alors les piliers sont assez surprenants. Alors, dans ce qui était la capitale de l'Empire, à Doulou, eh bien, le pilier, en fait, je ne l'ai même pas pris en photo parce qu'on le voit à peine, il fait 5 cm, il est au pied de cet édifice, mais pour tout le monde, ce qui est important, c'est le lion, qui est vraiment la puissance ancienne de l'Empire, et donc les buffles ne vont pas du tout être liés comme ils le sont ailleurs pour être exécutés proprement, on va dire décapités, mais ils vont être lâchés dans la foule, et les jeunes kshatriyas armés vont poursuivre les buffles loin dans les rizières en étage jusqu'à ce que, dès que l'un l'a tué, eh bien, il fasse appel au brahman qui va venir pacifier l'animal avec de l'eau lustrale, etc. Donc là, mettons, alors il y a quelque chose d'ouvert, mais ça respecte encore un petit peu l'idée que le roi, ça lui incombe à lui, en fait, de tuer le buffle. Tandis que si on se déplace encore un peu plus à l'ouest, par exemple, dans ce site de Dehimandu, où je suis restée assez longtemps, alors là, on est quand même très surpris, puisqu'on on trouve un micro-royaume appartenant à la déesse, dont les rois sont des kshatriyas, mais de statut inférieur, et qui fait en fait comme une sorte d'état tampon entre deux grands territoires princiers de rois Takuri, avec ses piliers intérieurs qui sont déjà appelés piliers de pouvoir, où chaque officiant s'assoit au pied lors du culte, et où il va aussi amener son buffle pour la bénédiction, mais les animaux vont après être attachés à des piliers externes qui sont très nombreux, il y en a plusieurs centaines, et avec quelque chose d'assez étonnant, c'est que de la même façon que les Takuri, on semble avoir confié en fait la source de leur pouvoir, qu'est cette déesse, à des rois de basse extraction, et à l'intérieur de ce micro-royaume, ce qui est considéré comme le pilier principal, c'est celui où le buffle est, dans le fond, est attaché, qui appartient à des intouchables, et c'est donc celui-là qui est totalement invisible de l'extérieur, qui a la primauté, un peu comme s'il y avait un leurre pour empêcher, brouiller l'origine du pouvoir royal dans ces régions. D'ailleurs, les gens disent que quand les Takuri arrivent en procession sur leurs chevaux, avec leurs buffles, etc., eh bien, tombe un épais brouillard sur ce temple, ce qui est évidemment un signe facile à lire dans le monde hindou, puisque les Takuri se revendiquent aussi comme ancêtres le soleil, et normalement quand ils sortent, et en particulier quand ils sortent avec leur sabre pour le sacrifice, on dit que le soleil brille forcément. Donc là, il y a cette image, et donc en fait je voulais finir sur cette image et puis je vais m'arrêter pour signaler que c'est les procédures dont j'ai parlé et les relations dont j'ai parlé ne concernent que le buffle, qui a cette particularité donc d'être impur, et en fait son sacrifice implique, sauf s'il était fait par les intouchables mais qui n'ont pas les moyens de posséder du gros bétail qui coûte très cher, et bien ça implique en fait un pouvoir politique, puisqu'il faut pouvoir coordonner au moins 3 classes de la population, les brahmanes pour sanctifier, les kshatriyas pour mettre à mort, et les intouchables pour consommer les restes, puisqu'il est impensable que les restes sacrificiels ne soient pas consommés. On a évidemment une image justement du rôle organisationnel qui peut s'exprimer dans ce type de cérémonie. Mais bien sûr, on a d'autres attitudes, en particulier vis-à-vis des moutons. Alors, moutons plutôt béliers, hein, puisque les hindous ne sacrifient jamais de femelles. Donc, c'est toujours des béliers, des boucs. Il leur arrive de sacrifier des jeunes, mais en théorie, ils sont censés sacrifier des animaux intacts, donc un bœuf, enfin un animal castré, c'est une abomination pour un hindou que de l'offrir à la déesse. Il faut qu'il ait toute sa virilité. Donc pour le sacrifice des boucs et des béliers, alors on voit justement ce dont vous parliez dans vos interventions filmées que j'ai pu écouter, ce cri du sacrifice qui est très très présent, avec beaucoup de sifflements entre les doigts, mais qui, en tout cas localement, m'ont été glosés comme des manières d'atténuer la douleur pour l'animal, pour l'étourdir d'une certaine façon. Cet animal, donc, qui est considéré en fait comme un fils, ou et qui a un sacrifice qui fait beaucoup de peine aux femmes et aux enfants, en particulier qui s'attachent à leurs chèvres et leurs moutons, comme nous à nos chiens et nos chats. Voilà. Donc, j'ai m'arrêté là pour ne pas dépasser mon temps de parole.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.